en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
L'Académie des sciences morales et politiques a organisé la rencontre nationale des trinômes académiques à l'occasion de leur 20e anniversaire. La rencontre était placée sous le parrainage du Premier ministre François Fillon et c'est le 30 mai 2008, au Palais de l'Institut, que l'Académie des sciences morales et politiques a organisé à cette occasion une journée d'études. Dans le cadre de la cérémonie du 20e anniversaire des trinômes académiques, sous la présidence de François Théré, président de l'Académie des sciences morales et politiques, a donc été organisée une journée d'études avec pour thème, en seconde partie de matinée, « Guerre et conflits au XXIe siècle ». Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de la communication d'Henri Laurence, professeur au Collège de France, intitulée « Le terrorisme comme phénomène ou personnage historique ».
J'ai l'impression d'être un petit peu hors sujet puisque c'est guerre et conflit au XXIe siècle et que je vais commencer à la plus haute antiquité. Mais il faut excuser ça, c'est les péchés d'historien. Puisque le sujet que je souhaite aborder, j'essaierai d'être le plus synthétique possible malgré un papier qui est très long, c'est le terrorisme comme phénomène ou comme personnage historique. Alors, évoquer la question de terrorisme est toujours une affaire délicate, d'autant plus qu'un certain nombre de conventions internationales contemporaines interdit l'apologie du terrorisme. Donc on a toujours le risque de se faire accuser d'apologie du terrorisme. Le problème quand on examine ce corpus juridique sur le terrorisme, c'est qu'on a des définitions extrêmement variées, voire totalement contradictoires, de ce qui, par ailleurs, est défini comme un crime. Alors, certains s'en sortent en disant que le terrorisme n'est pas un concept, ce n'est qu'une prénotion, c'est-à-dire un concept grossièrement formé à partir du sens commun qui prétend donner à voir un phénomène social, mais qui, en fait, en obscurcit le sens. D'autres, les théoriciens de l'art de la guerre, tente de contourner la difficulté en posant que le terrorisme est une technique, un instrument de combat aussi ancien que la guerre elle-même. Et par rétrospection, on s'y définit comme terroriste, aussi bien les zélotes juifs du 1er siècle de notre ère que les assassins ismaéliens du Moyen Âge. Ce qui complique le débat est évidemment le doublet entre terrorisme et terreur, concept qui ne se renvoie pas exactement aux mêmes éléments. Historiquement, la terreur renvoie à un épisode précis de l'histoire de la Révolution française, à la Grande Terreur, même si aujourd'hui cette imputation est critiquée par certains historiens. Mais toujours est-il qu'à partir, disons, du milieu des années 1790, disons à partir du 9 Thermidor, l'expression « terreur et terroriste » renvoie à cet épisode de la Révolution française. Et si vous examinez les dictionnaires du XIXe siècle, « terroriste », c'est d'abord un partisan de Robespierre, pour simplifier les choses. Alors la terreur, elle est consubstantielle à la guerre et elle existe depuis la plus haute antiquité. Il suffit de se rappeler les méthodes de guerre des Assyriens ou des Romains. On estime à plus d'un million de morts les pertes civiles provoquées par la guerre des Gaules de César, c'est-à-dire plus que pratiquement la guerre de 14. Pour un territoire équivalent, hein, ça vous donne les dimensions. Alors, l'inconvénient de traiter du terrorisme comme technique est d'en faire un élément de l'histoire de l'humanité qui est un trait permanent et du coup, on perd les mécanismes d'historicisation et des contextes. Donc, moi, je partirai plus simplement de l'émergence progressive au XIXe siècle du concept de terrorisme en s'appuyant sur les formes qui, aujourd'hui, seraient assimilées ex post au terrorisme. Alors, évidemment, la tradition la plus ancienne, c'est le tyrannicide. Meurtre d'un tyran par une personne privée en vue du bien commun, qui est la libération de la servitude. Alors, ça date d'Athènes au 5e siècle, 6e siècle avant Jésus-Christ, et ça se continue jusqu'à l'époque moderne, puisque les théologies protestantes et catholiques incluent le tyrannicide. Et en France, les assassinats d'Henri III et d'Henri IV l'ont été faits dans le cadre de théories du tyrannicide. Le rappel est simple, le tyran vit toujours sous la menace de l'attentat. C'est la célèbre histoire de l'épée de Damoclès. Alors, à la violence légitime du tyrannicide s'oppose la conjuration, de la plus haute antiquité, conjuration de Catilina jusqu'à aujourd'hui. La conjuration, c'est la version négative du tyrannicide, c'est la bande d'individus qui essayent de s'emparer du pouvoir dans le cadre de la prise de contrôle de l'État. Alors, conjuration et tyrannicide, hérités de l'Antiquité, ont été utilisés jusqu'à l'époque moderne dans le vocabulaire courant. Rappelons par exemple que la conjuration des égaux de Gracchus Babeuf sous la Révolution française, c'est probablement la dernière fois on a le mot conjuration utilisé comme tel. Au XIXe siècle, on a une nouvelle forme que l'on appelle le carbonarisme. Le carbonarisme, c'est l'ensemble, au sens strict, c'est donc la carbonarie italienne et la charbonnerie française, mais au sens large, c'est l'ensemble de ces sociétés secrètes, libérales ou républicaines qui se trouvent dans l'ensemble de l'Europe continentale entre le lendemain de Waterloo jusqu'au Second Empire. Et ces sociétés secrètes organisent des soulèvements, des attentats, l'attentat contre le duc de Berry, par exemple, l'assassinat du duc de Berry en 1820, en est un exemple. Donc des soulèvements, je vous renvoie aux Misérables de Victor Hugo. Donc il faut se rappeler donc, tout simplement que l'histoire de l'Europe pendant plusieurs décennies, à l'époque libérale, a connu une forme équivalente à ce que nous appelons le terrorisme sous ses formes successives. En Irlande, nous avons le nationalisme irlandais qui se développe dès le milieu du 19e siècle, avec en particulier l'Irish Republican Brotherhood, l'IRB, ou Fenians, qui organise des attentats à base sociale, avec soutien sur diaspora. On a aussi des Fenians irlandais basés aux États-Unis qui attaquent le Canada britannique dans les années 1860. Historiquement, l'IRB donnera naissance à l'IRA en 1919, puisque Michael Collins, le chef de l'IRB, est aussi le chef de l'IRA. Donc là aussi, il y a une longue tradition. En dehors donc du carbonarisme et de l'IRB, les prédécesseurs immédiats posent un autre problème de définition du terrorisme, et c'est celui du combattant illégal. Le combattant illégal, selon Carl Schmitt, apparaît sous la Révolution française, ou plus exactement sous l'Empire, avec la guérilla espagnole contre les troupes napoléoniennes. Guérilla, le mot vient justement de l'épisode espagnol, et la guérilla devient un symbole de toutes ces guerres rurales contre des armées régulières menées par des combattants illégaux. À la guérilla, on a ceci généralement le partisan. Au départ, le partisan est un soldat de troupes légères pratiquant les coups de main, c'est-à-dire l'attaque surprise, mais il devient très rapidement le combattant illégal dans la langue militaire. On y ajoute aussi le franc-tireur, tel qu'il est apparu durant la guerre de 1870. Entre la France et la Prusse, le franc-tireur était un civil français qui prenait les armes contre les soldats prussiens et qui pratiquait la guerre de coups de main. Alors on sait combien Carl Schmitt, dans sa théorie du partisan, a montré le scandale que constitue le partisan par rapport aux militaires et au droit de la guerre qui, au XIXe siècle, est fondé sur la distinction entre le militaire et le civil. Un civil qui prend les armes, c'est un scandale, c'est tout à fait hors norme. Alors on sait combien cette obsession du partisan a été forte dans l'armée allemande, et ce qu'on appelle les atrocités allemandes en 1914 ont été en fait une paranoïa des soldats allemands envahissant la Belgique et la France et massacrant des populations civiles en les assimilant à des francs-tireurs ce qui était généralement pas le cas. Alors, à s'ajouter aux partisans, on a encore un nouveau terme, c'est le commando. Le commando apparaît là aussi dans la guerre des bourgs au début du XXe siècle. En Afrique du Sud, c'est aussi un partisan ou un franc-tireur. Et le terme commando sera généralisé durant la Seconde Guerre mondiale, d'abord dans l'armée britannique, et puis ensuite dans l'ensemble des armées alliées. Alors, la théorie juridique est de dire que la guerre est, entre guillemets, régulée par les lois de la guerre, lois et pratiques et coutumes de la guerre, qui opposent des armées régulières entre elles et auxquelles les civils n'ont rien à faire et du coup, ils sont protégés. C'est un modèle théorique qui, en fait, n'a jamais fonctionné, sauf à de très rares cas dans l'histoire, car ce jus bellum n'existe en réalité que pour trois guerres. La guerre de Crimée, la guerre franco-autrichienne de 1858, dite la guerre d'Italie, et la guerre prusso-autrichienne de 1866, Sadowa. En dehors de ces trois guerres, nous ne trouvons pas en réalité, d'exemples historiques correspondant au modèle théorique de la loi de la guerre, puisqu'on a déjà vu en 1870 apparaissent les francs-tireurs et que les guerres de la Révolution de l'Empire sont remplies, évidemment, de francs-tireurs, partisans, guérillas, etc. Enfin, soulignons que la pratique de la guerre coloniale n'a jamais admis, sauf cas exceptionnel, c'est-à-dire de conflit avec l'Empire ottoman, la guerre coloniale n'a jamais appliqué le droit de la guerre, que la pratique permanente de la guerre coloniale a été la terreur, en particulier la conquête de l'Algérie par Bugeaud a été une guerre de terreur, avec destruction de la société algérienne, et que par définition, l'indigène n'étant pas civilisé, on lui applique des méthodes barbares de la guerre. Ainsi, la Croix-Rouge qui apparaît dans les années 1860 n'est jamais utilisée dans les guerres coloniales, sauf cas de l'Empire ottoman, puisque l'Empire ottoman était considéré comme un État civilisé. La politique canonnière n'est pas simplement une simple démonstration. Il y a des cas où les canonnières tirent, tels que le bombardement d'Alexandrie par les Britanniques en 1882, ou le bombardement, 1882, oui, et le bombardement de Casablanca au début du XXe siècle par les flottes de guerre européennes. Donc, en contexte colonial, il n'y a pas de loi de la guerre. Et inversement, l'indigène qui combat le colon fait une guerre de bande, qui est en fait une guerre de partisans contre la puissance coloniale. Alors on peut dire par un peu d'ironie que le terrorisme moderne est un produit de la technologie. Il naît pratiquement, en caricaturant le trait, d'Alfred Nobel avec l'invention de la dynamite. Car avant Nobel, les attentats étaient généralement inefficaces. Vous remarquerez que la quasi-totalité des assassinats politiques en Europe au XIXe siècle se font à l'arme blanche encore. Enfin, ceux qui réussissent. Les attentats à l'arme à feu échouent. Les quatre attentats contre Louis-Philippe à l'arme à feu échouent, les attentats à la bombe échouent, que ce soit l'attentat de la rue Saint-Nicaise contre Bonaparte en 1800 ou l'attentat d'Orsini contre Napoléon III. Alors là, ils font des morts collatéraux, mais ils échouent. Napoléon III, d'ailleurs, probablement échappe parce qu'il a un véhicule blindé, ce qui est déjà un progrès technologique important à l'époque. Donc, ce n'est qu'à partir du moment où l'explosif se perfectionne grâce à Alfred Nobel et qu'en même temps son usage se généralise que l'on peut voir l'émergence des formes contemporaines de terrorisme. Alors, en fait, ils apparaissent dans les années 1880-1890. Deux groupes sont bien distingués. Le premier, ce sont les anarchistes, dans toute l'Europe de l'Ouest, mais aussi en Amérique du Nord. C'est ce qu'on appelle la propagande par le fait. C'est l'utilisation de la dynamite pour faire sauter des symboles sociaux. C'est la ravachole, les anarchistes, etc. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que dans le discours des anarchistes, il n'y a pas d'innocents. Ce sont des bourgeois que l'on vise indistinctement en tant que bourgeois. Mais les textes d'époque ne font pas de référence au terrorisme à propos des anarchistes. Enfin, je n'en ai pas trouvé dans ma recherche. En revanche, le second groupe, c'est les nihilistes russes contre les symboles du pouvoir tsariste. C'est d'abord tout simplement la famille impériale et le tsar lui-même, qui utilisent couramment la dynamite. Et c'est à Pau II qu'est utilisé pour la première fois systématiquement le terme terroriste. J'arrive à peu près à dater aux alentours de 1890-1892 dans la langue française. Alors, pour ces nihilistes, on sait les commentaires complexes que Camus a fait dans L'homme révolté, dans son chapitre sur les nihilistes russes, qui disait qu'il légitimait la violence mais avait peur de frapper des innocents et qui condamnait le crime. Donc, dans cette contradiction, le nihiliste russe, selon Camus, abolissait la contradiction en se sacrifiant lui-même. C'est-à-dire qu'il se punissait du crime qu'il commettait en mourant en commettant le crime lui-même. Je renvoie aux pages en question de L'homme révolté. Alors, si le terrorisme apparaît donc en tant que tel au début des années 1890, il se généralise très vite dans un vaste espace qui est d'abord celui de l'Empire ottoman, où nous voyons des formes de carbonarisme se développer à partir du dernier tiers du 19e siècle. Et de ce carbonarisme naissent des organisations que nous pouvons qualifier déjà de terroristes dans les années 1890. Alors, le premier groupe est le groupe des Arméniens, les Fedaï arméniens des années 1890, avec l'affaire exemplaire de la prise d'assaut du siège de la Banque ottomane à Constantinople le 26 août 1896, qui est considéré comme le premier cas dans l'histoire de terrorisme publicitaire. Les gardiens sont tués, prise d'otage du personnel de la Banque ottomane, intervention des diplomates, exfiltration des terroristes par les ambassades occidentales qui les envoient en France et puis ensuite de là en Amérique latine. Le drame historique, c'est que cet acte de terrorisme publicitaire provoquera un déchaînement de massacres dans l'espace anatolien qui fera des dizaines de milliers, voire plus, de victimes. En dehors des Fedaï, la vraie matrice, c'est les Balkans, avec l'organisation révolutionnaire macédonienne L'ORIM, d'origine bulgare, avec ses célèbres Komitadji. Alors là, les Komitadji sont totalement des terroristes au sens contemporain du terme. Ils inventent la prise d'otages, en particulier d'Européens, pour financer leur activité, puis pour attirer l'attention internationale, ils se prennent en voie de communication. À un moment, ils feront même un détournement qui est celui tout simplement de l'Orient Express. Ils s'en prennent à des populations civiles non bulgares dans une politique de nettoyage ethnique. Les Komitadji bulgares sont le premier groupe terroriste référencé pour avoir un soutien étatique externe, l'État bulgare, puisque là on est dans la province ottomane de Roumélie. Donc vous voyez que les premiers terroristes référenciés sont des chrétiens de l'Empire ottoman, soit des chrétiens balkaniques, soit des chrétiens arméniens. Mais très vite apparaît aussi du carbonarisme en l'espace musulman, en particulier l'assassinat du Shah de Perse Nasser ed-Din le 30 avril 1896. Vous voyez combien tous ces calendriers coïncident les uns aux autres, dont la paternité idéologique est renvoyée à Jamal ed-Din al-Afrani, qui est considéré comme le père intellectuel de l'islamisme contemporain. Dans la première décennie du XXe siècle, le terrorisme s'étend jusqu'à l'Inde, voire la Chine. On a des mouvements considérés comme terroristes dans le Bengale britannique et au-delà, donc, ça atteint la Chine. Nous avons un monde de sociétés secrètes anticoloniales qui pratiquent en particulier l'attentat contre les représentants des puissances coloniales ou dominantes. Ce qui fait que le terrorisme a, dès les années 1900, cessé d'être un phénomène européen ou nord-américain. Alors, la Première Guerre mondiale va évidemment renforcer le phénomène. D'abord parce que la Première Guerre mondiale, c'est un phénomène de totalisation de la guerre. La guerre devient absolument totale et les populations civiles sont considérées comme des objectifs légitimes dans la guerre engagée par les puissances européennes. C'est le terrible blocus des puissances centrales exercées par les puissances alliées qui a pour but direct de provoquer disette et famine, et il y aura des disettes et famines à l'intérieur de l'espace allemand, austro-hongrois et ottoman. De l'autre côté, la guerre sous-marine à outrance, etc. Donc la totalisation de la guerre qui, en fait, abolit la distinction entre civil et militaire est la marque fondamentale de la Première Guerre mondiale et, au-delà, constitue le démarrage de ce qu'on a appelé la guerre civile européenne. Parce que cette totalisation de la guerre, qui est celle d'abord d'États réguliers, se poursuit immédiatement au lendemain de la Première Guerre mondiale par un jeu de révolution, de contre-révolution. Le léninisme est l'application à la lutte des classes des pratiques de la Première Guerre mondiale. Et nous avons aussi un terrorisme de droite ou d'extrême droite qui apparaît, les célèbres corps francs, par exemple, allemands, ou les Arditi italiens. Et vous savez que bon, les Arditi donneront naissance au fascisme et les corps francs seront l'une des bases dans lesquelles se développera ensuite le nazisme. Hein? Donc, on voit très bien que nazisme et fascisme ont une genèse dans ces groupes terroristes de l'immédiat Première Guerre mondiale. Cette Première Guerre mondiale où il y a un nouveau spasme de terrorisme qui frappe essentiellement l'espace dominé par les Britanniques. Alors déjà, durant la Première Guerre mondiale, les Britanniques avaient été hantés par ce qu'ils avaient appelé le complot hindou-germanique, c'est-à-dire un chef d'orchestre clandestin qui se trouverait à Berlin et qui soulèverait toutes les populations coloniales de l'Empire britannique contre les Britanniques. Et il y a des fondements, évidemment, à cette imputation. D'ailleurs, les Alliés ont fait la même chose en organisant la révolte arabe contre l'Empire ottoman. Mais de façon simultanée, en 1919-1920, éclate toute une série de mouvements insurrectionnels contre la puissance britannique pratiquement partout dans l'Empire britannique. Alors, d'abord, évidemment, la plus célèbre, c'est la révolte irlandaise, avec l'IRA comme arme de combat. Et contre-insurrection britannique va utiliser le terrorisme d'État en envoyant en particulier des nervis, les Black and Tans, qui vont massacrer des personnalités irlandaises, voire des populations civiles irlandaises pour frapper la population irlandaise. Ceci, vous le savez, finalement aboutit à un compromis politique qui permettra la constitution de l'État libre d'Irlande. Alors, le problème juridique qui était posé pour lutter contre ces formes d'action, était fondée par ce qu'on appelle le Defense of Realm Act d'ORA, voté le 8 août 1914 par le Parlement britannique, qui donne au gouvernement britannique de vastes pouvoirs de répression en suspendant au nom de la sécurité nationale la plupart des libertés publiques. Alors le DORA a un champ d'action extrêmement considérable pour ceux qui s'en rappellent. C'est le DORA qui avait interdit au peuple d'ouvrir après 11 heures du soir en Grande-Bretagne. Il a fallu attendre Margaret Thatcher pour suspendre cette décision du DORA de 1914. Le problème, c'est que le DORA est lié aussi à la loi martiale. Alors, dans la théorie britannique, la loi martiale ne s'agit pas seulement de frapper des gens, de suspendre des libertés publiques. Il s'agit d'une action préventive pour frapper une population, pour la dissuader de passer à l'insurrection. Le modèle catastrophique, c'est le massacre d'Ahrimsar en Inde en avril 1919, où l'armée britannique tire sur une manifestation faisant 380 morts. Le général Dyer, qui est le responsable du massacre d'Ahrimsar, justifiera son action au nom de la loi martiale en disant que c'était une action de dissuasion pour persuader la population de la région de ne pas passer au manifestation et que c'était cohérent avec le code martial britannique. De ce fait, ça provoquait un tel scandale que l'utilisation de la loi martiale dans le droit britannique a été abandonnée après le massacre d'Aramsar. En Égypte, la loi martiale était appliquée lors de la révolution égyptienne de 1919, avec aussi un certain nombre de massacres faits par l'armée britannique en représailles contre des villages soupçonnés de soutenir des révolutionnaires égyptiens, etc. En Irak, lors de la révolte irakienne contre les Britanniques, on a systématisé l'utilisation de l'aviation de bombardement pour réprimer la révolte irakienne. La pression britannique a fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Il y a des textes célèbres à l'époque. Et on a légitimé l'usage de l'aviation pour bombarder les populations, puisque ce sont des barbares. Ils ne connaissent que la responsabilité collective. En les bombardant, on les remet dans l'ordre. On voit d'ailleurs en général que toutes les législations coloniales de répression sont fondées sur la responsabilité collective des populations. Alors, à partir du massacre d'Aramsar, la législation britannique va se tourner par un nouveau dispositif juridique que vont appeler les pouvoirs d'urgence ou les règles, les actes d'urgence, c'est-à-dire chaque colonie britannique va développer son propre code juridique de loi suspendant les libertés publiques contre les actes dits de terrorisme qu'on commence à définir comme tels. Ainsi, au Bengale, où il y a une activité permanente contre les colonisateurs britanniques, nous avons les Bengal Criminal Law Amendment Ordinance de 1924, suivi d'une Bengal Emergency Powers Ordinance de 1930. Alors, pourquoi je vous cite ça? C'est parce qu'en 1932, on arrive au Bengal Suppression of Terrorist Outrage Act, qui est, à ma connaissance, le premier texte juridique comportant le terme terroriste dans son contenu. En Palestine, nous avons les Palestine Defense Order in Council à partir de 1937 pour frapper d'abord le terrorisme arabe et puis ensuite le terrorisme juif. Alors, je vous signale que le DORA sert encore de base législative pour la Cour suprême israélienne en ce qui concerne le maniement des populations arabes, qu'elles soient arabes israéliennes et arabes des territoires occupés. Et que les Palestine Emergency Regulation Act servent toujours de base à la législation israélienne dans les territoires occupés. Il y a continuité juridique totale entre la législation britannique et la législation israélienne. Alors, par ailleurs, l'entre-deux-guerres voit l'apparition du terrorisme international. L'exemple est connu, c'est en fait le fait que les comités de J continuent d'agir à partir de la Bulgarie et qu'à la fin des années 1920, l'ORIM fait la première coalition terroriste avec un autre mouvement terroriste qui est les Ustachi de Croatie yougoslave. Et donc l'assassinat à Marseille le 9 octobre 1934 du roi Alexandre de Yougoslavie ainsi que par accident du ministre français des Affaires étrangères Louis Barthaud est le premier acte commis de façon conjointe par deux organisations terroristes, l'ORIM donc et l'Ustacha. L'enquête policière montre rapidement l'implication de l'Italie fasciste et de la Hongrie dans le soutien logistique à l'Ustacha et à l'ORIM. Alors comme on cherche à éviter de fâcher l'Italie dans le contexte, on concentre l'accusation sur la Hongrie et on somme la Hongrie de cesser de porter tout soutien à des activités terroristes et la SDN essaye de s'en sortir par le haut en créant une commission chargée de définir une convention internationale contre le terrorisme. Cette convention est proposée à l'adoption le 16 novembre 1937. Elle propose deux conventions, en fait la convention pour la prévention et la répression du terrorisme et une convention créant une cour pénale internationale pour juger des actes terroristes. Alors le problème, c'est que la convention de la SDN définit l'acte terroriste comme des faits criminels dirigés contre un État et dont le but ou la nature est de provoquer la terreur chez des personnalités déterminées, des groupes de personnes ou dans le public. Mais néanmoins, comme l'héritage du 19e siècle faisait que la plupart des législations européennes interdisaient l'extradition de personnes pour actes et crimes politiques, la convention de la SDN refuse de reconnaître aux actes terroristes la qualification d'acte politique, ce qui est un peu une contradiction dans les termes. De toute façon, les deux conventions de la SDN n'auront pas le temps d'être ratifiées d'ici l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, donc elles n'ont jamais été appliquées. Alors, la Seconde Guerre mondiale, c'est pas la peine d'insister, a été l'amplification de la guerre totale de la Première Guerre mondiale, avec en particulier le bombardement aérien, auquel s'opposent donc deux théories morales. La première, celle du moindre mal. Un bombardement aérien est un moindre mal parce qu'il permet d'économiser des pertes chez soi, etc., etc. C'est la théorie du moindre mal justifiera l'usage de l'arme nucléaire à Hiroshima et Nagasaki. Et l'autre, c'est le problème de la proportionnalité. Un bombardement aérien d'une ville a un résultat hors de proportion en termes de pertes civiles par rapport aux bénéfices militaires qu'il apporte aux puissances qu'il commette. Donc les deux théories, soit de la proportionnalité, soit du moindre mal, ont été utilisées dans les débats de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est le moindre mal qui l'a évidemment totalement emporté. Bien comprendre que dans les bombardements alliés de la Seconde Guerre mondiale, les pertes humaines ne sont pas collatérales, c'est l'objectif recherché. Les Bomber Command anglais utilisaient l'expression « moral bombing ». Donc il n'y a pas de perte collatérale, c'est détruire les populations qui est bien l'objectif recherché. Le problème du terrorisme, c'est celui du combattant illégal. Or, les résistances européennes sont par définition des combattants illégaux. Et c'est des combattants illégaux qui pratiquent aussi bien la guérilla urbaine que la guérilla rurale. Donc les théoriciens de l'art de la guerre assimilent, en tout cas au moins au minimum, la guérilla urbaine menés par la résistance française comme des actes de terrorisme, s'il veut être cohérent par rapport à la définition du terrorisme comme instrument militaire. Et de toute façon, l'Allemagne nazie a fondé toute sa législation de répression contre les mouvements de résistance au nom de la lutte contre le terrorisme. Je vous rappelle la fiche rouge, etc. Donc, dans la Seconde Guerre mondiale, on a deux cas de guerre révolutionnaire. Dans le premier cas, on a la vraie guerre révolutionnaire montée par des partis communistes, dans lequel la guérilla rurale et urbaine n'est qu'une étape d'usure de l'adversaire pour arriver à la bataille finale qui, elle, est remportée par des armées régulières. C'est le cas des deux guerres d'Indochine. Première, à Dien Bien Phu, ce n'est plus des guérillas, c'est de l'armée régulière qui bat l'armée française à Dien Bien Phu. Et dans le second cas, ce sont des tanks qui prennent Saigon en 1975 et non pas des partisans. Dans la guerre de libération nationale, contrairement à la guerre proprement révolutionnaire, on est dans une situation de double asymétrie. On est dans une situation où le partisan lutte contre la puissance coloniale, en utilisant des moyens humains qui sont beaucoup plus faibles, souvent d'un rapport de 1 à 10 ou 1 à 15. Le nombre de combattants effectifs du FLN durant la guerre d'Algérie par rapport à l'armée française était dans un rapport de 1 à 10 ou à 1 à 20 en général. Mais en même temps, la seconde asymétrie est que le révolutionnaire, celui qui mène la lutte de libération nationale, met tout, pratique une guerre totale. Tandis que son adversaire ne peut pas pratiquer une guerre totale. C'est-à-dire la France ne peut pas utiliser la totalité de ses moyens en Algérie, tandis que la FLN utilise la totalité de ses moyens et de ses méthodes contre l'armée française. Et de ce fait, c'est une guerre essentiellement politique qui fait qu'il n'y a aucune solution militaire possible. Il n'y a pas de solution militaire possible parce que la répression crée le guérilleros, le partisan, parce que la répression entraîne le recrutement de nouveaux partisans à l'intérieur du mouvement numéro national. C'est ce que j'appellerais le syndrome de l'enfant grec. Vous savez, celui de Victor Hugo qui veut de la poudre et des balles après le massacre de son village. C'est la répression qui nourrit en permanence. Et l'armée ne peut que occuper le terrain, je veux dire. Si le dispositif militaire se relâche, qu'il soit urbain ou rural, immédiatement, le partisan réoccupe le terrain. Donc, on est dans une situation d'asymétrie qui conduit, en général, à l'abandon du territoire colonial. Alors, si, il y a des tas d'autres facteurs qui entrent en jeu, bien évidemment. Mais c'est-à-dire que l'enjeu est total pour le combattant révolutionnaire, alors qu'il est partiel pour la puissance coloniale. Donc, au bout d'un certain moment, la puissance coloniale n'est pas prête à payer le prix du maintien de l'effort de guerre, qu'il soit un prix économique, qu'il soit un prix humain, qu'il soit un prix moral, qu'il soit un prix politique, et ainsi de suite. Alors, dans la guerre de libération, vous avez évidemment, d'une part, la mobilisation des affects nationaux, c'est le nationalisme qui sert à la base, et ensuite la libération interne de l'individu. Alors, c'est la formule célèbre de Jean-Paul Sartre dans la préface aux Damnés de la Terre de Frantz Fanon en 1961. Dans le premier temps de la révolte, il faut tuer, abattre un Européen, c'est faire deux pierres d'un coup, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé, reste un homme mort et un homme libre. Célèbre phrase sartrienne, absolument terrifiante aujourd'hui. Et dans lequel, évidemment, la contre-insurrection ne peut rien faire. La grande erreur des colonels de l'armée française des années 50 et 60, qui ont essayé de théoriser la guerre révolutionnaire, c'est de n'avoir identifié la guerre révolutionnaire qu'à la terreur. Les FLN, l'Algérie, l'Indochine, etc., oui, utilisaient la terreur. Mais utilisaient aussi le nationalisme et la libération, y compris la restauration de l'individu colonial, par rapport à l'humiliation coloniale. Et ça, évidemment, les militaires français ne pouvaient pas l'offrir. Donc, on a vu l'échec lamentable des militaires français quand ils sont engagés dans l'OAS, dans l'affaire de l'OAS, en voulant utiliser les tactiques de la guerre révolutionnaire. Ils sont tombés complètement en dehors de la plaque. Et ça a été un autre drame. Alors, la guerre froide a été aussi une guerre de partisans. On a parlé tout à l'heure de la dissuasion nucléaire, de la stratégie anticipée. Mais la guerre froide a été aussi une succession de guerres secrètes. Oui, je sais, je suis présent. Guerre secrète qui a été commanditée par les puissances occidentales aussi bien que par les puissances soviétiques. Les uns et les autres ont utilisé en permanence des combattants illégaux derrière l'adversaire. Alors, les terroristes, c'est toujours l'autre. En Occident, les partisans qui combattaient du côté occidental, ce sont des « freedom fighters ». Des combattants de la liberté. Alors, on a quelques problèmes, par exemple, dans les années 80, quand les Freedom Fighters afghans deviennent ensuite, dans les années 90, des terroristes internationaux. Alors, je passe évidemment sur les épisodes du Moyen-Orient, sur le fait aussi qu'on a eu un terrorisme anti-impérialiste en Europe et dans le monde occidental, en États-Unis en particulier, en Amérique latine aussi, dans les années 60, qui était à base idéologique. Je passe sur la question du terrorisme à base identitaire que nous avons aujourd'hui, en soulignant simplement que le terrorisme identitaire style djihad islamique, djihadisme, etc., est né de la rupture de l'universel qui est constitué par la fin de l'anti-impérialisme. Je veux dire, dans les années 70, un marxiste-léniniste arabe combattaient côte à côte avec un Cubain, etc. Ils combattaient dans un mouvement universel. La fin de l'Union soviétique, la fin du marxisme, etc., ramène la motivation révolutionnaire à l'identité primordiale. Donc nous avons maintenant des terrorismes identitaires. Alors qu'est-ce que c'est donc le terrorisme comme personnage historique ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous révèle sur l'histoire longue qui commence dans la décennie 1880 et qui se continue encore aujourd'hui. Alors, évidemment, le terrorisme est par définition la violation du monopole étatique de la violence. Hein, c'est ce qu'on peut appeler la définition minimale. Mais dès lors, on est dans la contradiction propre au XXe siècle, qui est d'une part un processus de civilisation de la guerre au sens moral du terme, marquée par les différents toits de la guerre, les conventions de La Haye, les conventions de Genève, etc. C'est-à-dire une limitation des nuisances de la guerre et un processus de totalisation de la guerre qui porte non plus contre des armées régulières, mais contre des sociétés entières. Et en ceci, quand des terroristes s'en prennent à des populations civiles, ce n'est pas une légitimation, ils ne sont que dans la continuité de la totalisation de la guerre au XXe siècle. En tant qu'instrument, le terrorisme est défini comme une arme du faible contre le fort. C'est une chose qu'il faut probablement modifier en partie. La question est que le terrorisme tue relativement peu de gens en mobilisant le maximum de sa capacité de frappe, tandis que l'État tue beaucoup plus tout en limitant relativement l'usage de sa force. C'est-à-dire que l'État peut tuer encore plus. Les indications concernant le Liban et la Palestine le montrent bien, mais la distinction est relative. L'action terroriste recherche avant tout la publicité, tandis que l'État recherche au contraire à éviter les condamnations internationales. La guerre du Liban de 2006 en montre bien le paradoxe. Le Hezbollah est une organisation terroriste qui tue beaucoup plus de militaires que de civils, tandis que l'armée israélienne est une force légale qui tue beaucoup plus de civils que de combattants de l'autre camp. Le terrorisme révèle la difficulté du gel de l'histoire qui s'est produit au terme de normes. Depuis le pacte de Briand-Kellogg, la guerre est théoriquement rendue illégale. C'est la notion de crime contre la paix utilisée au procès de Nuremberg. La seule guerre juste est la guerre défensive, résistance contre l'agression, d'où la difficulté de caler la notion de guerre préventive et le fait qu'à partir de 1945, chaque camp a entamé des guerres secrètes contre l'autre en utilisant guérilla, francs-tireurs, partisans, etc., etc. Le second point est que la charte de l'ONU a gelé les territoires, sauf les territoires coloniaux. De ce fait, les mouvements séparatistes n'ont pas de reconnaissance internationale et donc ils utilisent les méthodes terroristes pour essayer de s'imposer. En dernière analyse, on a le problème que si les déclarations de l'homme des droits de l'homme du XVIIIe siècle, la française et l'américaine, reconnaissaient le droit de résistance à l'oppression, la Charte universelle des droits de l'homme ne l'impose pas. Parce que le débat à l'ONU a porté sur le problème du droit de résistance à l'oppression. Et on s'est sorti en marquant dans le préambule, il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Mais personne n'a réussi à justifier ou à définir dans quelles conditions on arrivait au suprême recours. Dernier point, le terrorisme est la marque distinctive du court XXe siècle, selon l'expression d'Osbaum, c'est-à-dire 1914-1991, ou âge des extrêmes, même s'il apparaît dans les décennies précédentes. Il est fondé sur la fusion de deux personnages, celui du militaire et celui du militant, qui deviennent tous les deux des combattants. On a donc le paradigme du combattant, paradigme de la libération nationale, paradigme dit de la fin, c'est-à-dire que la fin justifie tous les moyens. Ce que l'on résume sur l'expression, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. À partir des années 70, le paradigme du combattant a été remplacé par le paradigme de la victime. La libération a été remplacée par le paradigme des droits de l'homme. D'où le fait que la violence en tant que telle, qui était quelque chose de légitimé, a été progressivement remplacée par la souffrance, dans le cadre de ce qu'on appelle la concurrence des victimes. Alors là, j'avais le tableau du terrorisme pour l'année 2007 dans le dernier rapport du département d'État américain, où on voit que le terrorisme aujourd'hui est essentiellement monde musulman indien. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'il y ait des facteurs ethniques, religieux ou culturels, puisque nous l'avons vu, le parcours historique du terrorisme parcourt tous les continents, toutes les aires culturelles, toutes les références religieuses. Alors, la condamnation du terrorisme se joue sur deux registres distincts. S'il est le mal, il est condamné sans tenir compte de ses justifications, d'où un certain nombre de textes internationaux actuels qui disent « quelle que soit la justification, on ne tient pas compte de la justification ». S'il est pris comme technique, on en souligne l'inefficacité pour atteindre les buts recherchés. En réalité, si on fait abstraction des guerres civiles, c'est-à-dire Irak, Somalie, Afghanistan, le tableau du département d'État montre que les actes de terrorisme ne constituent en réalité qu'une nuisance, voire des conflits à très basse intensité. Alors, la question est de savoir si l'application de la grille terroriste pour Irak, Somalie, Afghanistan est valide ou non. En tout cas, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que si le terrorisme n'est pas une maladie éradiquée, ou c'est impossible à éradiquer, c'est en tout cas un symptôme qu'il faut prendre en compte. Et j'ai été beaucoup trop long, je m'en excuse. Non, non, non. Voilà.
Vous avez été passionnant.
Vous venez d'entendre la communication d'Henri Laurence du Collège de France le 30 mai 2008 lors de la rencontre nationale des trinômes académiques organisée par l'Académie des sciences morales et politiques.